jusqu'à 13h.
Entre émotion et évasion, plan large.
Sur Radio Chablais.
L'entretien de Florian Barbet.
Ilias Ponchard, on se retrouve pour la deuxième partie de cette émission. Colombe et Murat devant ce qui reste de la raffinerie Tamoil. Entre parenthèses, je pense que beaucoup de gens n'imaginaient pas que le démantèlement de cette usine se ferait de façon aussi rapide et harmonieuse finalement. Il y a des pays où des usines à l'abandon restent pendant des décennies à l'abandon. C'est plutôt un bon signal de notre système, une sorte d'efficience.
Oui, c'est ça. Je ne connais pas les détails de l'avenir du projet, mais on voit quand même qu'il y a déjà une suite qui est prévue.
Ça a clairement bougé. Hein,
c'est ça, ouais.
Il y a des murs autour, on ne voit pas forcément, mais si on se lève un petit peu alors on voit des images depuis en haut, c'est assez frappant.
Et qu'on peut s'imaginer que le site ne sera pas juste une sorte de reste de site industriel abandonné, mais qu'il y aura d'autres activités à terme qui auront lieu, si j'ai bien compris.
Bon, qu'est-ce que vous diriez de poser une centrale nucléaire là? Il y a un fleuve pour le refroidissement, c'est pas mal. Qu'est-ce que vous en dites, Ilias?
C'est qu'il y aurait presque une logique, cette
Voilà.
Le Rhône, ce serait un peu la première centrale nucléaire sur le Rhône. Il y en a un peu plus ensuite du côté français. Non, mais voilà, vous me connaissez. Moi, je suis président de Sortir du Nucléaire. C'est une des premières campagnes que j'ai faites il y a quelques années. Alors, le sujet du nucléaire revient de plus en plus. On entrera un petit peu dans les détails. Mais ce qui est intéressant pour moi, c'est que voilà, nous, on n'est pas tellement stressés parce qu'on voit que voilà. La récolte de signatures pour une initiative qui veut relancer le nucléaire. Dans le titre même de l'initiative, il n'y a pas le mot nucléaire. Dans le texte, il n'y a pas le mot nucléaire. L'immense majorité des signatures, c'est un autre sujet, mais ont été récoltées de façon rémunérée,
en
dépensant entre 400, 600, 800 000 francs. Donc on voit quand même qu'à un moment, voilà, s'il y avait une volonté massive dans ce pays de relancer le nucléaire, il n'y aurait peut-être pas besoin de payer autant d'argent pour convaincre les citoyens de le soutenir. Et puis surtout, ce que le milieu... Le reste du lobby pro-nucléaire essaye de faire maintenant, c'est juste de... Je pense que personne dans ce pays, si je suis assez clair, ne pense qu'il y aura de nouvelles centrales nucléaires dans ce pays. Par contre, en faisant ce move politique, si j'ose dire, en fait, ils essayent de gagner 10, 15, 20 ans sur la durée de vie des centrales
actuelles. Prolonger la durée de vie des centrales qui sont déjà parmi les plus anciennes en activité, notamment Bessenau, je crois, qui est la plus ancienne en activité dans le monde. Bon, évidemment, c'était la galéjade. Hein. C'est un peu pour ça que je vous ai invité aujourd'hui, d'ailleurs, pour cette résurgence de la question nucléaire. Claire, il y a l'initiative, vous venez d'en parler, elle s'appelle Stop au Blackout, je crois.
Hein. Ouais.
Elle a été lancée par divers mouvements de jeunesse, notamment les jeunes PLR. Et puis, tout frais, il y a le Conseil fédéral qui dit que, non par un changement de constitution qui impliquerait une votation obligatoire, mais par un changement législatif, on pourrait revenir, c'est le dossier d'Albert Rochetil, le Conseil fédéral, sur la sortie du nucléaire. Donc ça fuse un peu de chaque côté. Comment vous voyez cette stratégie?
Oui, alors au moins maintenant, les lignes sont relativement claires. Hein. D'abord, maintenant, ça va aller au Parlement. Donc, on aura de nouveau un vote assez rapidement hein, dans les prochains mois. J'imagine que voilà, le centre, les Verts libéraux vont tenir évidemment sur cette position. Pour moi, la question, c'est est-ce que Albert Rochetil joue vraiment son rôle de conseiller fédéral? Et puis, j'en veux un petit peu à ses collègues, peut-être PLR, parce que vraiment, l'enjeu, si... Au-delà du dogmatisme, puisqu'on pense sur le fond idéologique du nucléaire, la question c'est qui va investir. Et quand on voit, nous, moi j'ai pas, on a réagi publiquement, mais on n'est pas non plus allé faire toutes les interviews, etc. au moment où l'annonce a été faite. Par contre, le lendemain, vous aviez, le responsable suisse d'Alpiq, donc des gens qui sont vraiment des dirigeants d'entreprises qui possèdent des parts, qui possèdent des centrales nucléaires, qui disent clairement, avec tout le respect et la cordialité suisse, mais qui disent clairement, en gros, que c'est une idée à la con, et puis qu'il n'y aura jamais de nouvelles centrales nucléaires qui vont être construites dans ce pays. Donc,
Les points que vous amenez dans votre argumentaire, hein, vous l'avez assez longuement développé chez nos confrères de Blic, j'ai lu cet article, c'est une note de blog, hein, c'est votre texte, c'est pas un article, et vous dites finalement il n'y a que les pays où l'État investit massivement dans le nucléaire qui construisent encore du nucléaire, hein. C'est le cas de la France, nos voisins français. On en bénéficie d'ailleurs parce qu'on leur achète de l'énergie nucléaire. C'est le cas de la Chine aussi, il y en a d'autres j'imagine, mais les privés ne veulent plus y aller.
Oui, c'est ça, et ça se remarque au niveau mondial, hein. Même quand on regarde ces grands groupes, les divisions énergie renouvelable de ces grands groupes, en fait, investissent beaucoup plus et font beaucoup plus de bénéfices que les parties nucléaires de ces groupes-là. Donc, on sent un petit peu cette tension qui se crée aussi. Et au niveau suisse, maintenant, voilà, il y a un certain nombre d'élus bourgeois, par exemple, qui ont proposé d'utiliser le fonds pour les énergies renouvelables, donc l'argent qu'on est censé utiliser pour subventionner le développement, notamment du solaire, hein, qui est quand même l'énergie actuellement en Suisse qui fait faisait pas débat,
on
qui est accepté
pour
par
ça,
tout le monde.
Comme on a voté pour sortir du
Absolument,
nucléaire d'ailleurs.
C'est ça. Et du coup, en fait, une partie de ces élus propose simplement de prendre une partie de cet argent pour l'investir dans la construction de nouvelles centrales nucléaires. Et nous, on va laisser un petit peu maintenant le monde de l'économie débattre de ça, parce que c'est même plus une question, évidemment que ça nous concerne et que les écologistes continueront de défendre la sortie du nucléaire, mais on voit un petit peu voilà, cette conflictualité au sein même du monde de l'économie. Et comme je l'ai dit, à mon avis, c'est juste un certain nombre d'investisseurs et d'énergéticiens qui veulent gagner un certain nombre d'années aux dépens de la sécurité, parce que si vous prolongez indéfiniment la durée de vie des centrales nucléaires actuelles, vous avez quand même des risques non seulement de sécurité, mais même d'approvisionnement, parce que plus une centrale vous la faites durer longtemps, plus les fermetures sont prolongées. On le voit souvent en France, vous avez eu des moments où vous avez beaucoup de réacteurs français qui étaient arrêtés au même moment, et ça leur a posé des gros problèmes d'approvisionnement l'année passée.
Bon, ce qu'on dit souvent dans ce débat, qui peut être audible d'ailleurs, hein, je pense que la population l'entend, on est dans une civilisation de la technologie, de l'innovation, etc. Et on nous dit, bah oui, le nucléaire innove aussi, il y a d'autres systèmes, il y a d'autres méthodes, il y a un nucléaire plus propre qui n'a pas forcément résolu la question des déchets, mais qui avance sur cette question-là. Et ce qu'on nous dit, c'est, bah, vous les écolos, vous voulez stopper la recherche, en fait, vous voulez stopper l'innovation et la possibilité de s'en sortir.
Bon, ce qui est intéressant pour moi, il faut être assez pragmatique et puis voir l'argent qui est investi. Hein. Quand vous regardez en France, vous avez eu des projets comme ITER où vous avez eu des dizaines de milliards qui ont été investis. Mais pour l'instant, vous n'avez pas un débouché industriel, un débouché technologique qui est clair. En fait, maintenant, les centrales, soi-disant de nouvelle génération comme des EPR, vous en avez un dans le nord de la France à Flamanville où on parlait de 4-5 milliards d'investissements. On est autour des 20 maintenant. Elle devait être construite en 5-6 ans, ça fait 20 ans. Donc voilà, on doit aussi se rendre compte maintenant, et l'argument climatique, moi des fois il me fait un petit peu rire parce qu'il vient souvent...
C'est l'argument qu'on vous oppose, hein. Le nucléaire c'est propre, donc ça permet de sortir du fossile.
Exactement,
l'argument de personnes qui ont pignon sur rue et une voix forte écologiste. Hein. Jean Covici par exemple en France veut, comme vous, une certaine frugalité, une certaine... diminuer la consommation, mais dit on s'en sortira pas sans le nucléaire.
Ah mais c'est intéressant, c'est vrai qu'à la base je pensais pas à Jean Covici, je pensais plutôt à des élus plutôt de droite et bourgeois ici, mais Jean Covici, on peut en parler, hein. Il a été très attaqué par les milieux anti-nucléaires à un moment, et il y a quelques années il disait oui, il faut construire de nouvelles centrales nucléaires, et là depuis quelques années vous voyez que c'est plus vraiment une position qu'il défend. En gros il dit il faut pas fermer les centrales actuelles trop vite,
il faut pas couper le jus avant que ce soit nécessaire,
c'est ça. Mais par contre voilà, on voit que sa position a quand même évolué, puis en fait elle évolue pour un élément tout à fait logique, c'est-à-dire que quand vous avez un franc à disposition à investir dans la transition énergétique, ou en tout cas dans le monde de l'énergie, bah en fait on voit que le meilleur investissement possible, c'est un mélange d'investissement pour le développement des énergies renouvelables et pour l'efficacité énergétique et les économies d'énergie. Je sais pas, les services industriels genevois, ils ont mis l'accent là-dessus depuis des années. On parle quand même de dizaines de milliers de ménages d'économies, notamment dans la production d'électricité, par des mesures relativement simples et ambitieuses. Donc pour moi, les deux priorités, elles sont là. Et puis quand on défend voilà, une forme de, on peut dire le mot, une forme de décroissance ou de sobriété heureuse, comme lui, il la défend aussi, bah, à un moment, l'énergie nucléaire, elle est quand même centralisée, elle est quand même très peu transparente, contrôlée principalement par l'État et des grands groupes. Ce qu'il faut pour qu'on réussisse la transition énergétique, c'est qu'on la rapproche des citoyennes et des citoyens. C'est assez important, je pense, aussi pour des régions comme le Chablais ou d'autres, de vraiment se dire en fait chaque personne peut participer à la transition énergétique, notamment en posant des panneaux solaires sur son toit. Puis pour l'instant on n'en est pas encore là.
Bon, vous savez ce que se disent nos auditrices, certains d'entre eux en tout cas, nos auditeurs en vous écoutant, Ilias Panchard, vous voulez sortir du nucléaire, vous voulez sortir des énergies fossiles, quand il y a un truc quand il y a un projet d'éolienne, c'est les écolos qui s'y opposent, quand il y a les panneaux solaires en montagne, c'est les écolos qui s'y opposent. Il n'y a pas un gap là, quelque chose qui dirait on a raison à 110% et c'est seulement notre scénario qui est le bon.
Bon, je pense qu'on est un petit peu sorti de là. Je ne peux pas parler pour les écolos de chez nous actifs depuis 20, 30, 40 ans, si ce n'est plus. Mais par exemple, si vous regardez récemment, je sais pas, il y a eu toute cette table ronde pour savoir quel barrage pourrait être surélevé. Ben, les Verts, on a aussi participé à ce compromis-là. On a soutenu la loi sur l'électricité, alors qu'il y avait certains aspects qui nous semblaient un peu plus critiques que
sur
d'autres.
Donc,
c'est ça, sur le développement des parcs solaires, même si nous, on arrive maintenant avec une initiative solaire où on dit la priorité, c'est de construire sur les toits. Le Wind Express, en bon français, donc le développement de l'éolien, c'est aussi des projets qu'on a soutenus à Berne. Donc voilà, on met aussi de l'eau dans notre vin. Et puis sur les oppositions, bah voilà, on pourrait le regretter, mais les Verts n'ont pas une capacité ou un droit de recours vraiment direct. C'est plutôt les organisations environnementales qui peuvent le faire. Et je crois que récemment, que ce soit le VVF ou ProNatura, c'est quand même plutôt des organisations maintenant qui sont aussi en train de privilégier la transition énergétique. Et puis entre nous, vous pouvez regarder sur la plupart des projets, c'est quand même surtout en général des riverains et des riveraines qui s'opposent aux projets qui sont pas loin de chez eux. Donc on a toujours cette logique, si on fait l'autocritique un peu collective, de pas dans mon jardin, quoi, ce not in my backyard.
Ouais, c'est le cas pour une centrale nucléaire, c'est le cas pour une éolienne aussi.
Absolument.
Ouais, ouais. Vous avez ce combat du nucléaire, on entend bien qu'il est. Alors il est historique chez les Verts. Hein. Il y a quoi il y a 60 ans d'histoire là, où, bah, c'est quasiment, même, peut-être même plus, hein, parce que quand Besnard n'était pas encore là, il y avait déjà les projets de Besnard. C'est un combat aujourd'hui. Si je vous écoute, vous avez l'impression qu'il est gagné. Il est en tout cas idéologiquement gagné, pas seulement en Suisse, mais dans le monde.
Oui, si vous regardez, la part du nucléaire dans le monde, elle ne cesse de baisser, et puis elle est compensée évidemment par le développement des énergies renouvelables. Donc, on le voit aussi nous.
Un exemple que vous donnez dans votre texte, hein, ouais. C'est la capacité d'une centrale en mégawatts par rapport à l'accroissement de l'énergie solaire en Suisse en une année. C'est 4 ou 5 fois.
Oui, c'est ça. Et puis, si on regarde l'année passée, j'ai plus le chiffre en tête, mais on a eu 30 à 40% d'augmentation de la production d'énergie solaire. On a des pics comme ça qui sont vraiment gigantesques, où on est en train de passer des paliers justement dans le nombre d'installations qui sont raccordées. Alors ça crée aussi des défis, hein, parce qu'ensuite il faut vraiment investir dans les réseaux, dans la question du transport, dans la question du stockage. Enfin, ça donne un petit peu l'obligation.
Dans la fabrication aussi, on est dépendant aujourd'hui de marchés très lointains, la Chine par exemple, sur simplement l'approvisionnement en panneaux solaires.
Absolument, alors que quand on regarde ici de l'aspect microtechnique, que ce soit en Valais, à Neuchâtel et tout, on a vraiment toutes les compétences. Alors évidemment, c'est plus dur derrière de construire toute une filière industrielle qui puisse ensuite être vendue à des prix abordables. Mais en fait, tout le potentiel, il est clairement ici. Et je crois qu'on est entré dans cette logique maintenant qui a été défendue, qui est toujours défendue par les Verts depuis des décennies maintenant, où tout le monde commence un petit peu à se dire que oui, la grande logique d'aller tout construire à l'autre bout du monde, hein, sans que ce soit une critique forcément à l'encontre de la Chine ou d'autres pays, bah, en fait, on est en train gentiment d'en sortir. Et puis ça nous ravit, parce que c'est quand même vraiment tout un apport positif aussi pour l'économie locale.
Bon, il y a cet aspect-là. Il y a aussi l'aspect du recul démocratique, de la crispation démocratique dans des pays comme les nôtres. Hein. C'est assez aigu en France en ce moment, mais on peut en sentir les frémissements en Suisse également. Il y a le possible retour de Trump. Il y a la guerre, tout simplement. Enfin, tout simplement, c'est évidemment pas le mot. Vous êtes plutôt optimiste ou plutôt pessimiste, parce que c'est dur de naviguer dans ce maelstrom, c'est dur pour vous, activistes, mais c'est aussi dur pour celles et ceux qui nous écoutent.
Oui, c'est pas évident, hein. Puis ça pose aussi la question de quel, c'est un vaste sujet, hein, mais de quels outils est-ce qu'il faut utiliser ? Est-ce qu'il faut aller vers une logique très radicale, très populiste ?
D'interdiction,
aussi,
d'obligation.
Ouais, et puis surtout même dans le discours. Enfin, je veux dire, jusqu'à quel point est-ce qu'il faut 100% dire la vérité ou autre ? C'est vrai qu'en Suisse, on est un petit peu préservé de ça, même si le paysage politique est en train de changer. Ça pose aussi des questions de notre côté en tant qu'écologiste. Quand on est aussi militant de gauche, on se dit, mais en fait, est-ce que notre message y percute autant que les messages de certains milieux de droite, d'extrême droite ou populiste ? Donc c'est vrai que moi, ça me fait un petit peu une certaine remise en question. Il faut aussi qu'on soit plus efficace, plus clair dans la façon de communiquer. On a un petit peu ce défaut, si je fais l'autocritique, peut-être des fois d'être un peu trop pas intellectuel, mais trop complexe, ou de vouloir vraiment à chaque fois mettre tous les détails dans les projets, de tout expliquer. Et c'est peut-être quand même un peu une faille qu'on a. Donc plutôt optimiste, mais je pense qu'on a vraiment énormément de boulot, puis que globalement en politique, parfois on ne travaille pas assez un peu sur les idées. On a l'impression que on est un petit peu sur une sorte de socle électoral, et puis qu'en Suisse ça bouge pas tellement. Alors en 2019 on a beaucoup gagné, mais on a toujours l'impression que les choses vont bien se passer, alors qu'il faut se bouger.
Il faut bosser l'optimisme de l'action. Merci à vous, Ilias Panchard.